Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui ouvre ses studios à l'univers qu'il observe d'habitude de loin pour une petite séance interview, en recevant dans quelques instants Antoine Rimbaud, réalisateur et scénariste dont le premier long métrage, Une Intime Conviction, est en ce moment dans les salles. Marina Foïs, Olivier Gourmet et Laurent Lucas au casting pour ce film de procès qui nous plonge dans une histoire vraie, l'affaire Viguier, du nom de ce professeur de droit accusé du meurtre de son épouse et acquitté après 11 ans de procédure et deux procès riches en rebondissements. Pour évoquer ce film avec Antoine Rimbaud, mes deux camarades de prétoire, Julien Dupuis, salut Julien.
Salut Thomas.
Et Perrine Quenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
C'est Nos Ciné, l'interview, Une Intime Conviction, et c'est parti.
Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Bonjour Antoine Rimbaud.
Bonjour.
Comment est-ce qu'il est né ce film, Une Intime Conviction, ce projet?
Alors, il est né un peu par hasard. J'ai un ami qui s'appelle Karim Dridi, qui est réalisateur, à qui je faisais lire des scénarios qui n'étaient pas du tout sur du judiciaire, mais qui étaient toujours sur le doute, sur le thème du doute, c'est-à-dire qui laisse le spectateur se démerder et se confronter à son intime conviction, mais sur le thème. Et il me parle de cette affaire, il me parle de Jacques Viguier, qu'il a croisé dans des manifestations de cinéphiles à Toulouse, parce que Jacques Viguier est très cinéphile, et il me parle de Monsieur Viguier, qu'il connaît à peine, et qui est accusé d'avoir assassiné sa femme, et qui va comparaître devant les assises, et ses amis le soutiennent, et apparemment il n'y a aucune preuve. Et il me parle de ça en me disant que ça va résonner, que ça va me plaire, que ça va m'intéresser, enfin me plaire, ça va me passionner. Je lui réponds qu'on ne fait pas de film judiciaire en France, qu'il faut être Oliver Stone, que le mec n'est même pas jugé, que c'est mort, enfin, que c'est impossible, que c'est pas un sujet possible. Et puis je me mets à lire tout ce que je trouve sur l'affaire, et en gros, le seul storytelling sur l'affaire, je ne sais pas si vous en souvenez, quand on a suivi cette affaire, c'est le crime parfait, le prof de droit enseignait le crime parfait et l'a commis, voilà, pendant 9 ans, c'est ce qui s'est écrit dans la presse. Je vais assister au procès, je suis déjà allé un peu en comparution immédiate, je me suis intéressé à la détention pour mineurs, mais jamais à la cour d'assises. Et je débarque sur cette affaire, pour la première fois, je pose mes fesses sur le banc d'une cour d'assises dans mon pays et je découvre que ce que je connais de la justice vient du cinéma américain et donc de la procédure accusatoire et donc je ne connais absolument rien de ma justice et qu'en revanche, je suis rompu à tous les thrillers judiciaires américains qui sont aux antipodes dans les thèmes et dans la façon dont s'articule l'audience de notre justice à nous, qui est inquisitoire, qui vient de l'inquisition, qui descend directement des procès ecclésiastiques et qui est vraiment, mais qui n'a rien à voir, quoi. Et le premier truc, c'est putain, pourquoi on fait plus de films de procès en France? C'est juste pourquoi, voilà. Et puis je rencontre cette famille qui est en sursis, qui est en attente de réponse. Je rencontre Jacques Viguier qui est dans l'état qu'on peut imaginer, c'est-à-dire sous le rouleau compresseur, paralysé. Et il est bipolaire et c'est donc maniaco-dépressif. Il est en phase down de dépression lourde à son calvaire. Et je rencontre ses enfants qui se mettent à me parler, probablement parce que je ne suis pas journaliste, que je ne leur demande rien, que je ne leur pose pas de questions, que je leur explique que je prends des notes pour peut-être un jour ou pas en faire quelque chose. Donc je leur explique que moi j'écris des scénarios. Bon, voilà. Ils se mettent à me parler, puis la famille se met à me parler, et je fais une rencontre importante avec quelqu'un qui s'appelle Émilie, qui était la maîtresse de Jacques Viguier au moment de la disparition de sa femme. Il avait des maîtresses, c'était aussi dans la panoplie de l'accusation, quoi. L'assassin avait des maîtresses.
Oui, et donc, c'est ça, le mari infidèle, voilà, c'est a se débarrasser de
dans les
de
archétypes du récit médiatique.
Oui, bien sûr.
Et donc, cette Émilie était sa maîtresse, elle avait 20 ans, elle vient à la barre dire que c'était pas du tout dans ses valeurs, qu'elle faisait sa connerie des 20 ans, mais qu'elle était amoureuse de son prof de droit, puis c'était comme ça, qu'elle voulait être juge d'instruction, puisqu'elle étudiait le droit, et qu'elle collectionnait les balances. Ça s'invente pas, c'est le détail qui tue, depuis qu'elle était petite. Voilà. Et puis, elle a découvert l'injustice de son pays, elle est allée le visiter en prison, et puis elle est devenue sa compagne pendant 9 ans, et elle a élevé les enfants, elle a pris toute cette famille sur son dos, elle a retourné le dossier pendant des années, et elle s'est lancée dans une quête pour la justice, et c'est devenu son sacerdoce. C'est la première personne qui m'intéresse dans cette affaire, c'est la première sur qui j'ai envie d'écrire.
Oui.
Et puis après, il est acquitté par une première cour d'assises. J'ai déjà passé un peu une ligne avec la famille, je me suis rapproché un peu de la famille, et puis je sors de là avec au moins la conviction de son innocence, et la conviction que l'enquête a été faite à charge, et qu'il n'y a pas de preuve et qu'on doit l'acquitter. Bon, voilà. Sans évidemment aucune preuve de son innocence non plus. On ne prouve pas une innocence. Quand le parquet fait appel, c'est une spécificité française, ça existe dans pas beaucoup de pays. Le doute a profité à l'accusé, mais circuler.
Le ministère public décide quand même de relancer la machine.
Je m'en indigne et je propose aux enfants de faire un documentaire sur leur point de vue pendant le deuxième procès. Parce qu'il me semble que leur point de vue est capital. Et ils ont très peur de s'exposer. Et donc je leur demande...
Pourquoi de leur point de vue justement ? C'est la première question.
Parce que je trouve ces enfants extraordinaires et que ce qu'ils racontent sur leur père, sur leur mère, sur le dossier, sur... c'est un vrai point de vue très juste, quoi. Équidistant forcément, c'est les enfants, ils ont grandi dans « Maman a disparu, papa est accusé de son meurtre ». Je les vois interroger leur père, je vois des scènes de famille comme ça, je rentre dans cette famille, je les vois interroger leur père de manière hyper rationnelle, sur des questions très précises, etc. Je les vois se poser vraiment les questions.
Eux étaient dans le doute, c'est ça en
fait ma question. Alors c'est compliqué de...
Parce que dans le film c'est pas...
Non, dans le film, il y a une distance de sécurité avec la famille qui, là, je suis en train de raconter les choses qui sont bien au-delà du film. Bien au-delà du film. Leur point de vue m'intéresse parce que c'est le point de vue du doute, effectivement, à ce moment-là, et que je les ai vus passer par ça, alors qu'on n'attend pas ça du tout. On attend évidemment une défense aveugle et affective de leur père. Et ce n'est pas du tout ce que je vois, je trouve ça intéressant. Et puis parce que j'ai l'impression que moi, je ne vais pas pouvoir poser mes fesses sur le banc sans essayer de faire quelque chose. Voilà, c'est aussi simple que ça.
D'accord.
Très naïvement, moi, j'ai l'impression de voir un mec qui se noie dans une piscine et il y a une perche à côté de la piscine et puis il y a juste à l'attendre. Et j'essaye de faire quelque chose, c'est d'abord ce projet de documentaire. Je tournerai plein de choses à l'occasion de ce deuxième procès, dans l'intimité de cette famille, qui aboutiront à de la matière, mais qui ne fera pas un documentaire. En revanche, toute cette matière a été un des matériaux de la fiction, et on a tout transformé dans le process en fiction, c'est-à-dire avec des acteurs qui jouent. Mais ça, le scénario a infusé là-dedans, et puis j'ai donné en fait à toute mon équipe, la déco, les costumes, tout le monde en fait, le casting, toutes ces images-là, plein de montages, aux comédiens, etc., avec l'autorisation de la famille. Bon, j'ai fait un saut dans le temps, mais en gros, après ce projet de documentaire qui va se tourner, mais avec cette condition que les enfants décideront in fine si oui ou non ils veulent que ce soit diffusé, et finalement ils préféreront pas. Leur père sera acquitté, ça n'aura plus de sens de toute façon. Dans le même temps, toute la famille, et les enfants surtout, parlent de changer d'avocat. Et moi, c'est cette histoire de piscine, là. Je suis à Paris, ils parlent d'un certain Éric Dupond-Moretti, que je ne connais pas encore. Ils ont besoin d'un acquittement médiatique, pensent-ils. C'est très naïf aussi, mais... Parce qu'en fait, on continue à écrire dans les journaux que leur père est coupable. Et en plus, c'est la double peine pour eux, parce que non seulement les jurés ne l'ont pas acquitté parce qu'il était innocent, ça c'est ce qu'on lit partout, c'est le bénéfice du doute, on dit ça souvent, comme ça, du revers de la main, quoi. On balaye un jury populaire. Mais les enfants lisent dans la presse et entendent que c'est par égard pour ces enfants qu'on n'a pas voulu leur enlever leur père, eux qui ont déjà perdu leur mère, ce qui est insupportable pour eux. Et ils veulent un rayonnement médiatique de l'acquittement, voilà. Et puis tout le monde a très peur de l'appel. Hein. Que feriez-vous si vous étiez acquitté et puis qu'on recommençait tout, quoi, hein. Parce que ça a été très suspect, ce changement d'avocat. J'ai eu pas mal de questions à Toulouse, hein, essentiellement, dans la région, des gens qui se levaient à la fin de la projection en disant « Mais s'il a changé d'avocat, c'est qu'il est coupable. » C'est vite dit. Bref, je deviens un peu l'émissaire de la famille en allant trouver Éric Dupond-Moretti qui va rentrer dans l'affaire. Ce qui ne s'est pas passé du tout, comme dans le film. C'est du cinéma, complètement. On a réinventé ça. Mais enfin, j'ai fait ça. J'ai passé cette ligne-là. Quand je fais ça, je me dis qu'il n'y a plus de film, que je ne ferai pas une fiction, tout ça. Et puis, je vis le procès en observant la grande machine judiciaire, mais de plus près, le travail de la défense. Et Éric Dupond-Moretti, qui me passionne, et qui est le deuxième grand personnage dans le réel dans mes rencontres autour de cette famille. Et puis, au procès, il se passe des trucs rares, qui ne sont jamais passés dans les annales de la justice française, qui sont le film, et donc il ne faut pas spoiler, mais bon, en gros, il y a eu des rebondissements exceptionnels, dignes des rebondissements du deuxième acte des thrillers judiciaires américains. Voilà, ce qui n'arrive jamais. Et évidemment, comme tout le monde, je brûle de voir ce qu'il y a dans les écoutes téléphoniques qui ont fait rebondir le procès et dont la défense a fait plein de choses incroyables pendant les audiences. Et une fois que le dossier est archivé, classé, je me penche dessus. J'ai un vertige en fouillant ses écoutes et en fouillant le dossier, que j'ai déjà un petit peu découvert, le dossier. Et là, j'imagine ce personnage. Et donc, je reviens, mais ça prend un an, quoi. Ça prend un an d'obsession à l'intérieur du dossier, à tourner autour de mes différents matériaux et à me demander s'il y a un film possible. Je commence par écrire une série premier projet, c'était un peu Rashomon, c'était 8 épisodes d'une heure avec 8 points de vue.
La piste documentaire a été complètement abandonnée.
Ouais, complètement.
Quoi, à ce stade-là.
Mais moi, j'ai jamais fait de documentaire. Et d'abord, documentaire, j'ai un absolu respect pour le documentaire, mais j'ai jamais fait de documentaire. Mmh. Simplement, tout d'un coup, dans la démarche dans laquelle j'étais face à ce réel, ça a été un chemin. Mais j'ai filmé, quoi. Mais un peu tout seul. Hein.
Mmh. Pourquoi l'avoir abandonné à ce stade-là, en fait ?
Parce que les enfants voulaient pas, tout simplement.
D'accord,
et qu'il y avait quelque chose de. Et puis, c'était aussi un chemin pour trouver, moi, la juste distance aussi. C'est-à-dire que je pense que il y a eu un rapport de confiance qui s'est créé à l'intérieur du dispositif de tourner dans l'intimité sur cette famille. Mm-hmm. Et puis ensuite, ça s'est transformé en autre chose qui me correspond 10 fois plus. Et c'est le film que j'ai fait. Alors, c'est un long chemin très particulier. Ça. Mm-hmm. Moi, je dis souvent que c'est un film qui a infusé dans le réel. Et oui, il y a un gros travail documentaire qui l'a nourri, qui n'a pas abouti à un documentaire. Mais c'est pas plus mal. Hein. Moi, je trouve ça très... Tant mieux, en fait.
Non, mais ma question, c'est du coup, comment intervient en fait la fiction au milieu de toutes ces expériences et
dans
de toute cette documentation
vue, voilà. Dans la recherche du point de vue et dans qu'est-ce qu'on va raconter avec cette histoire, parce que ça m'intéresse pas de faire un film sur un fait divers. Mmh. C'est toujours très limité. Ce qui m'intéresse, c'est de faire un film sur la justice. Et donc, très vite, après, j'ai un rapport obsessionnel avec l'affaire, dont je vais faire une obsession de cinéma et un personnage obsessionnel, voilà. Et puis j'ai un rapport obsessionnel avec la justice au cinéma. Je fais un espèce de travail, je me penche sur tous les films procès. Bon, je les ai vus déjà, évidemment, comme tout bon cinéphile. Je connais déjà très bien Lumet, mais il y en a plein d'autres. Et puis je regarde dans d'autres pays aussi ce qui s'est fait. Et je fais une découverte hyper simple. On fait plus de films de procès en France depuis la fin des années 60. En gros, des vrais films de procès, on les appelait des drames de prétoire. C'était des drames, c'était poussiéreux, c'était chiant, c'était bavard, et c'était statique. Il y avait Kayat qui se faisait... qui était moqué par la nouvelle vague beaucoup et qui était un peu démonstratif. Les Américains nous ont doublé là-dessus. Ils ont un genre et un sous-genre. C'est une institution dans le cinéma américain. Ils ont des séries, on les connaît tous par cœur, quoi. On est tous biberonnés à ça. Et ils font des thrillers. Et en fait, c'est pour une raison hyper simple, c'est la procédure. La procédure accusatoire cherche la vérité à l'audience. La défense est agissante à la manifestation de la vérité. C'est les fameux rebondissements du deuxième acte du procès lui-même qui donnent des films des whodunit, en fait, dans lesquels on court après la vérité. Et les grands thèmes du cinéma américain et de leur justice, c'est la vérité, le bien, le mal. Voilà. Nous, c'est pas du tout ça. Et ça devient super passionnant de se demander comment on peut faire. Et donc, c'est l'enjeu du film et c'est là que je creuse le point de vue par rapport à ce thème-là. Les thèmes qui parcourent notre justice, le grand thème, c'est celui qui parcourait mes expérimentations de scénarios qui ne se sont pas tournés avant de découvrir ça, c'est le doute. Ce qui sépare l'enquête policière de la justice, c'est le doute. La défense, chez nous, elle ne cherche pas la vérité, ça ne l'intéresse pas. Elle est là pour se lever et dire « Attention, on ne sait pas, il y a du doute, vous devez acquitter ». C'est ça l'enjeu de nos procès en France. Et c'est à l'accusation de démontrer la culpabilité de l'accusé, et tout se fait avant. C'est l'instruction, c'est le juge d'instruction qui enquête à charge et à décharge. Et c'est un héritage religieux, ça vient des procès ecclésiastiques. Vraiment, c'est l'idée que la vérité vient d'en haut, qu'elle est confisquée au peuple et elle est remise dans les mains des sachants. Bon, il y a un peu des jurés qui font un peu joli, mais bon, qui sont quand même importants et qu'on veut faire disparaître aujourd'hui dans une réforme de la justice très économique, pour des raisons bêtes de coupes budgétaires, on veut... Bon, c'est un autre sujet. mais donc voilà, je découvre l'intime conviction... et pas le doute raisonnable. Enfin, je m'aperçois en gros que toute l'idée que je me fais de la justice et la réflexion judiciaire bien plus récente, anglo-saxonne, parce que c'est pas que les films américains, c'est tous les pays du Commonwealth, parce qu'évidemment que la justice américaine est tout aussi malade de plein de problèmes, mais juste les règles du jeu de la procédure accusatoire sont tellement dramatiquement opposées aux nôtres que voilà, il y a un grand sujet, il y a un film à faire.
Et vous le dites clairement d'ailleurs dans le film, parce que je vois le personnage donc de Olivier Gourmet, Éric Dupond-Moretti, le dit. Dans ses répliques complètement, il le dit, il dit clairement au personnage de Marina Foïs,
c'est pas mon boulot,
ce n'est pas de chercher le véritable coupable, on n'est pas au procès de Durandet, on est au procès de Viguier, et aussi cette idée du doute, il lui dit qu'à un moment donné c'est pas un doute, c'est tous les doutes possibles, et c'est là qu'on peut, en fait
c'est le sens de son boulot,
c'est le sens, en tout cas vous le faites dire à votre personnage, clairement votre découverte.
Ouais, complètement. Et c'est ma découverte naïve qui est sa découverte naïve. Donc, c'est un poisson hors de l'eau. Donc, c'est une profane. Elle n'y connaît rien. Donc, alors c'est un spoil, mais c'est une jurée, voilà, qui n'a rien demandé. Alors, j'ai passé aussi des années à essayer d'écrire le film sous le point de vue d'un juré. Finalement, c'est une jurée en service après-vente, quoi. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas l'affaire, qu'il se dit, mais ils sont...
Et c'est un peu vous, en fait, Marina Foïs.
C'est un peu moi, c'est un peu Émilie aussi. Et puis, c'est des jurés que j'ai rencontrés. Et puis, c'est... c'est le monstre de tout cela. C'est-à-dire que c'est Dark Vador. Moi, je pitchais beaucoup le film en disant c'est Erin Brockovich qui va devenir Dark Vador. C'est-à-dire qu'elle porte le flambeau de l'erreur judiciaire, de la présomption d'innocence, qu'elle va piétiner, et elle va devenir ce qu'elle voulait combattre. C'est ça que ça raconte d'abord. Voilà.
Ce qui est d'ailleurs super intéressant, c'est-à-dire qu'on suit majoritairement le film à travers son point de vue. Moi, j'aurais souhaité que ce soit beaucoup plus majoritaire, mais on pourra y revenir aussi tout à l'heure.
Ouais, mais c'est un non-sens, du coup, pour moi.
Ouais. Oui, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Mais justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire que vous jouez sur la façon, sur la nécessité aussi du spectateur de se détacher de ce point de vue-là.
Exactement. En fait, le pitch théorique du film, c'est un whodunit qui, au lieu d'élucider une vérité, ce qu'on nous promet dans un whodunit et dans un film américain, au lieu de trouver une vérité, va trouver le doute, pas comme une frustration, mais comme une valeur. La valeur cardinale de notre justice, le doute. Voilà. Et c'est la découverte de ça, que l'avocat, il se défend de la vérité. En fait, c'est le combat symbolique, ces deux personnages, entre la certitude, la vérité, la conviction et le doute. Donc l'avocat d'un côté et elle. Et puis c'est l'idée aussi que la nature a horreur du vide et que pour la justice, les accusateurs de Jacques Viguier comme Nora, il faut un coupable. Voilà. Et que c'est pas le boulot de la défense. Et que la justice, c'est pas nécessairement de trouver un coupable. Voilà. Bon, voilà, c'est tous les thèmes que draine le film avec l'exigence d'une écriture de thriller et de suspense qui est permise parce qu'elle cherche la vérité. Encore une fois, le film, il est construit, oui, sur une quête de vérité, et en même temps, comme le doute doit arracher la nappe sous le banquet à la fin et tout emporter, il faut aussi l'installer, ce doute. C'est pour ça que le simple point de vue de Nora, à mon avis, n'aurait pas marché, n'aurait pas suffi à retourner ce point de vue. Et
c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, quand même
Le point de vue pur de Nora, bien sûr. Mais en fait, il était très... parce que c'est aussi faire un film de procès, et en fait, cet enjeu... Si on fait The Wrestler ou son autre film obsessionnel là, après de Black Swan, c'est-à-dire si on fait un film de complètement d'enfermement dans l'obsession et de point de vue, on ne va pas raconter grand-chose de la cour d'assises. Ça va être à distance, et moi je veux faire un film de procès. Donc ça ne me suffit pas, j'ai pas envie de raconter toujours la même chose à chaque séquence de procès. Je veux que la mise en scène aille chercher du sous-texte différent à chaque séquence, et qu'on appréhende la justice. Alors quand même, avec l'idée que c'est vu depuis le banc, mais l'idée large, quoi, que c'est vu depuis le banc, donc on ne passe pas du côté, par exemple, on va pas aller dans la salle des délibérés, on va pas aller... Et c'est un film sur le doute, donc ça nous échappe. Donc on est quand même avec elle, mais on est un peu aussi avec l'avocat qui travaille avec elle, et puis en fait c'est construit sur l'idée que la plaidoirie de la fin, qui est réelle, va s'adresser autant à elle qu'aux accusateurs de Viguier. Et donc, il y a une espèce de divorce entre ces deux personnages, et c'est construit sur l'évolution de leur rapport. Maître à élève, puis antagoniste, puis il a quand même besoin d'elle, et puis, à force de chercher la vérité, bah, elle fait aussi... elle arrive à combattre l'autre vérité en face, mais ça suffit pas, parce que le doute, c'est pas qu'une vérité, c'est pas qu'une possibilité, c'est toutes les possibilités, etc., etc. C'est construit là-dessus. Donc oui, il y a deux points de vue. Mais il y a un point de vue...
Dominant quand même.
Ouais, mais qui doit se prendre le mur.
Mais après, le point de vue, c'est vraiment essentiel pour moi au film, parce que clairement au début, je pensais que c'était un film, quand le film commence, surtout avec Nora, je voyais vraiment un film, bon, clairement un film de procès, on est tous d'accord là-dessus, mais un film sur l'obsession, de voir ce personnage qui bascule à un moment donné, qui est raisonnable, qui veut faire quelque chose de bien, mais qui va basculer dans, comme vous le disiez, il va basculer dans quelque chose de négatif. Mais pour moi, c'est vraiment un film sur le point de vue. Vous n'arrêtez pas de dire ce mot-là d'ailleurs depuis le début.
Bah, c'est un truc de cinéma, le point de vue.
Mais ça se voit aussi dans votre mise en scène, de toute façon, je trouve qu'il y a beaucoup de travail sur le jeu des regards des personnages. On a beaucoup de plans sur les yeux, la manière dont on va regarder les uns et les autres. Je trouve qu'à un moment donné, il y a surtout dans les scènes particulièrement de procès, on va voir Dupond-Moretti qui va regarder Nora qui va regarder Durandet qui va regarder Viguier. Il y a vraiment quelque chose comme ça où en permanence, on est sur le travail du regard, en fait. Et quel regard on porte sur l'autre.
En fait, c'est vraiment le thème central de l'affaire avant d'être un film sur l'affaire. C'est une projection permanente. C'est-à-dire que tout le monde a sa conviction et ça n'est qu'un sentiment. Et un sentiment ne fait pas une preuve. Voilà le programme du film. Un sentiment ne fait pas une preuve. Mais l'idée, c'était de faire l'apologie du doute en passant par la conviction de Nora. Et en fait, son point de vue, on en a besoin dans toutes les scènes de procès. Alors, sauf quand elle n'est pas là. Il y a une scène de procès où c'est la fille de Viguier qui est à la barre. Bon, voilà, Nora n'est pas là. Moi, j'avais besoin qu'elle ne soit pas là, qu'elle soit en hors-piste, etc. Donc, voilà. Et puis, il y a des scènes où elle est au resto en train de préparer des cartouches qu'elle file depuis la voiture, enfin les papiers bleus, etc., où elle fait des allers-retours, pareil, elle n'est pas complètement là. Mais globalement, au montage, on avait tout le temps besoin des reaction shots sur elle pour voir ce qu'elle ressent, ce qui se passe. Et après, il y a un truc, et puis on a théorisé ça avec le monteur, on a regardé fenêtres sur cours pendant le montage tout le temps. En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est un personnage qui est le spectateur, c'est-à-dire qu'on regarde quelqu'un regarder, Mais il y a quand même d'autres points de vue, il y a quand même d'autres façons de rentrer dans les scènes, parce que c'est très limité. Alors bon, Fenêtre sur cour, c'est un film de dispositif parfait, pur, qui est un pur... Moi j'aimerais bien Fenêtre sur cour sans la résolution. C'est mon rêve de cinéma, mais il y a une frustration, évidemment, nécessairement. Moi, j'étais obligé d'installer tout le paiement du doute qui l'emporte à la fin, dans chaque scène de procès, tout en restant dans son point de vue. Mais l'idée, c'est... Enfin, le projet, et je crois... On l'a réussi, et bref, il faudra faire des sondages sur chaque spectateur. C'est qu'on soit dans sa conviction le plus possible, qu'on ait son sentiment à elle de la culpabilité d'un autre, et que quand on arrive dans le climax du film, qu'est la pure fiction, qu'est cette scène dans le couloir de l'hôtel qui précède la plaidoirie, là, on se fasse retourner et qu'on se dise, mais un sentiment ne fait pas une preuve, et qu'on ait à rougir d'avoir trouvé l'amant coupable sans plus de preuves que Viguier. C'était ça le projet. Et pour ça, il faut installer le Dupond-Moretti. Il faut qu'il gagne aussi, il faut qu'il soit audible. Et ça. Alors, il y a quand même des spectateurs qui me disent qu'ils sont déjà contre elle, ils sont déjà retournés contre elle avant ça. Mais il y en a suffisamment qui me disent, effectivement, ça fait réfléchir, ce qu'il lui dit dans le couloir de l'hôtel. Le projet du film, il est là, donc il y a une espèce de balance, hein, c'est le cas de le dire, qu'il faut tenir. Et après, il y a ce qu'on raconte dans chaque scène de procès, qui est vachement intéressante pour se renouveler, pour ne pas s'ennuyer, pour, dans le rythme, etc., qui fait qu'on creuse des points de vue différents de simplement le point de vue de Nora ou celui de l'avocat.
Il y a des idées de visuelles de cinéma que j'aime beaucoup, moi, dans le film, et notamment sur la façon dont cette obsession commence à prendre beaucoup de place dans la vie de Nora.
Ouais.
Je pense notamment au remplacement des photos, par exemple,
ou à
ces séquences rythmiques où on la voit gérer son quotidien et gérer en fait les écoutes.
Resto,
en fait.
Les écoutes, les papiers,
etc.
Les commandes,
et à quel point c'est en train de rythmer en fait son quotidien dans cette boucle. Donc j'imagine ça, c'était déjà...
Tout est écrit. Tous les montages parallèles sont écrits. Ouais, tout est écrit, c'est pas storyboardé parce qu'on n'a pas les moyens. Mais j'avais fait des petits montages avec des bouts d'autres films. Moi, j'ai été monteur très longtemps. J'étais obsédé par ça, le rythme. Et puis, l'écueil, hein, c'est les assises, c'est de faire un film assis chiant, quoi.
Voilà, c'est pas forcément très cinématographique.
Non, c'est dangereux, mais c'est très cinématographique aussi. Parce qu'il y a des... Moi, j'adore les films de procès. Hein. Je suis dingue de films de procès. C'est hyper puissant dramatiquement. Et en fait, ou des hommes du président, je suis fan. C'est pas hyper cinématographique, c'est des mecs qui se parlent. Ou de Aaron Sorkin, je suis fan. C'est pas hyper cinématographique. En fait, c'est hyper cinématographique. Voilà. C'est le spectaculaire, il est d'être dans la peau des gens et de vivre une histoire. Donc, tant que ça raconte quelque chose, c'est cinématographique. Voilà. Après, fallait qu'on sente les corps, fallait que ce soit physique, fallait qu'on sente l'obsession, les nuits sans sommeil. C'est une camée, en fait. Hein. C'est un truc de toxico, en fait, l'obsession. C'est ça, les films d'obsession. C'est tout disparaît autour. Et c'est pour ça, oui, il y a une tentation de réduire la profondeur de champ, ce qu'on fait un peu, et on aurait pu faire ça, mais c'est un peu théorique, en fait. C'est-à-dire que ça nous enlève aussi plein d'autres choses. Si c'est ça que tu voulais dire par
ton
fantasme de point de vue pur.
Non, mais tu peux aussi en parler aussi, parce que j'ai l'impression que vous vous resserrez, en fait, sur elle, quoi.
On le fait, mais je voulais le faire plus
large
et puis.
Au début, c'est très très large tout le temps, et après, on se resserre.
Enfin, non, mais il y a ça, mais on aurait pu faire ça façon Black Swan, mais jusqu'au bout, être jusqu'au boutiste là-dessus. Mais bon, d'abord, moi j'ai déjà vu 15 fois et ça finit par être un cliché. Et ensuite, je dois m'aménager de la place pour avoir un langage qui me permette, en étant compatible avec tout ça, raconter d'autres choses aussi dans le procès pour faire quand même un film de procès. Parce qu'un film d'obsession où elle est de temps en temps dans un procès, en fait, on aurait viré les scènes de procès une par une pour se concentrer que sur l'obsession et que sur ce... Et c'est pas ce que je voulais faire, puisque je suis obligé d'installer... c'est toujours « know your ending », c'est ce qu'on lit dans tous les manuels de scénario. Donc, t'es obligé d'installer la fin, t'es obligé de savoir où tu vas. Et donc, forcément, il faut l'installer, quoi.
Mais on est hyper intéressés par ce procès, en fait. Vraiment, moi, j'étais... Parce que, au-delà de l'obsession, je trouve que Marina Foïs a un personnage vraiment fascinant, qu'elle incarne vraiment particulièrement bien. Elle a quelque chose de très... avec son parler, elle a une froideur que j'aime beaucoup, qui marche très, très bien. Mais en même temps, ce procès m'intéressait beaucoup dans le film. J'étais vraiment moi-même en train de me faire le bout d'un it, comme tu le disais. Mais justement, quand j'entends ce que tu racontais sur la démarche, comment t'en es arrivé à faire ce film-là, à quel moment, comment on sait que, comme tu connais le procès, t'as lu les choses, à quel moment on arrive à trouver la bonne distance entre ce qui est le procès réel, les gens réels que t'as côtoyés, hein, Éric Dupond-Moretti, les enfants, et cette nécessité de fiction. Donc comment on arrive à trouver le bon degré?
Parce que c'est là des mensonges par omission.
Oui,
aussi. c'est la grande question aussi que je me suis posée.
Parce que par exemple, cette Émilie,
est-ce que tu as gommé certains trucs?
Cette Émilie n'existe pas, par exemple, dans le film.
Elle est remontée par capillarité, inspiration de Nora. Alors, dans sa période lumineuse, c'est-à-dire dans son combat contre l'injustice, pas dans la partie Dark Vador. Il n'y a pas de Dark Vador. J'ai pas rencontré Dark Vador. J'ai rencontré des fous de justice, on les appelle. C'est ces gens, souvent, c'est leur propre affaire, qui se promènent avec des dossiers sous le bras dans les palais de justice et qui courent après les avocats. Il y a un peu ça aussi, mais et qui sont des gens, voilà, qui veulent se défendre de l'acharnement judiciaire, etc. Et qui sont parfois barjots, quoi. J'ai rencontré plein de fous, quand même. Là, il y a quelqu'un qui m'écrit en ce moment sur Facebook parce qu'il a retrouvé le corps de Suzy. Il a trouvé des os. Il a fait expertiser. On lui a dit
Suzy
que c'était des os.
La femme de Jacques Viguier.
Voilà, Suzanne Viguier qui a disparu, dont on n'a jamais entendu. Donc, et puis, voilà, il y en a plein qui me racontent n'importe
c'est
quoi.
Peut-être pas un barjot.
Tout le monde se fait. Oui, bah, je discute
doute,
un peu avec lui.
La nécessité du doute.
Mais donc justement, comment on garde cette distance? Comment vous avez réussi? Parce que vous êtes très impliqué finalement.
Oui, avec les.
C'est un truc que vous avez expérimenté forcément, en fait.
Le vertige de courir après la vérité, oui.
Voilà. Et le manque de doute, quoi, justement.
Oui, j'ai frôlé des trucs de. Jamais de certitude, mais cette espèce de vertige, de ce sentiment qui agit comme une emprise. Il y a un truc un peu fantastique. Hein. C'est religieux, hein, la conviction. On demande
c'est
au juré.
Foi, ouais.
Ouais, ça a à voir avec la foi.
Foi.
On demande dans le silence et le recueillement. C'est ça le serment, enfin le texte lu au juré. Quoi. Et quelle impression on fait sur votre raison? Déjà, ça, c'est du bug complet, quoi. L'impression, la raison, c'est pas prendre une décision au-delà d'un doute raisonnable, c'est quelle impression et avez-vous une intime conviction? Ça tient de l'irrationnel. Alors, les avocats de la défense vont dire attention, c'est basé sur la preuve, et en même temps, dans le texte, il y a aussi on ne vous demande pas compte de si telle ou telle preuve sont plus importantes que d'autres, ou tel témoignage, c'est avez-vous une intime conviction? Alors, toute justice est humaine, toute justice est imparfaite, et de toute façon, on en appelle toujours à ça à un moment donné. Mais oui, il y a un truc irrationnel qui, à un moment donné, prend possession de vous, vous isole, vous aveugle, vous enferme dans vos certitudes. Et après, on ne se défait plus de ça. C'est ça que ça raconte. Hein.
Comment s'en extraire pour écrire ça? Pour écrire un film comme ça qui, justement...
Cette démarche de faire gagner le doute. C'est-à-dire essayer d'amener le spectateur à comprendre qu'il n'y a que le doute qui compte. Et que ça ne vaut rien, et qu'un sentiment ne fait pas une preuve. Enfin, je me répète tout le temps, mais je sais pas, avec du temps, avec un dispositif de contrainte de distance, de sécurité, comme en voiture, pour pas rentrer dans la voiture de devant, avec la famille, avec Jacques Viguier. Et par contre, j'ai tout fait exploser avec l'avocat. C'est-à-dire que Dupond-Moretti à l'audience, ce sont ses mots. Tout ce que vous voyez de l'audience, c'est vrai. Les écoutes téléphoniques, c'est vrai. On n'invente rien. C'est les sélections, c'est du montage. Tout ce qui est lié à l'affaire, j'ai pas touché, j'ai pas inventé.
In extenso, c'est-à-dire son...
Ah bah,
voilà, d'accord.
Ça dure plus. Ouais, c'est in extenso. Ouais, on a même un montage intégral du film à disposition de la justice, si jamais on nous dit c'est pas vrai, j'ai jamais dit ça, avec les vraies écoutes et les vraies voix. Et c'est les mêmes. Franchement, c'est les mêmes. Si besoin.
C'est très curieux, c'est plus anecdotique, mais de demander à un acteur de reproduire ces véritables
écoutes... On a fait comme ça. Ouais.
C'est super bizarre. Quoi.
Le film a infusé dans tout ça. C'est-à-dire que la règle, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait, c'est ça la bonne réponse en fait. La règle, c'est on n'invente rien de l'affaire. On fait des choix, évidemment. Ça dure 1h50, 1h45 sans le générique. Le procès durait 3 semaines. Le dossier pourrait remplir la pièce de carton. C'est gros, évidemment, on fait des choix. Il y a dans ce qui drive les choix, il y a l'idée de pas re-raconter ce qui a été raconté dans le storytelling médiatique sur la culpabilité de Viguier. Donc on laisse des éléments, évidemment. On n'entend pas prouver une innocence. D'ailleurs, Jacques Viguier en convient, il l'a dit plusieurs fois. On ne peut malheureusement pas prouver une innocence. Donc on laisse des éléments à charge, mais on va pas tous les sortir. On fait pas, par exemple, ils ont fait un défilé des maîtresses de Jacques Viguier. Bon, bah, ça, nous, on l'a un peu laissé de côté. On trouvait ça moyennement intéressant. Voilà. Et le film essaye de raconter autre chose, d'aller gratter autre chose à travers Nora. Mais par contre, on n'invente rien, quoi. Le seul truc qu'on invente, c'est elle et son évolution avec Dupond-Moretti. Et donc, dès qu'ils dialoguent ensemble, en fait, à partir du moment où les personnages dialoguent avec notre personnage de fiction, bah, c'est de la fiction. Donc, le Dupond-Moretti, c'est un Dupond-Moretti de cinéma que j'ai imaginé dans cette situation face à une borderline qui va devenir complètement tarée, en fait. Et qu'est-ce qu'il fait de ça, quoi? Quand elle devient vraiment toxique, comment il l'éjecte, quoi? Voilà. Donc, il y a ça dans la démarche. Et ça m'a débridé. J'ai évidemment demandé son autorisation à Éric Dupond-Moretti de faire ça. Sinon, il n'y avait pas de film. Je lui ai donné 3 ou 4 versions du scénario qu'il n'a jamais lues.
Ah ouais, ah ouais. Ça c'est marrant. Alors.
Bah, bah, s'il me dit ça va, qu'est-ce que je vais lire ça, j'ai d'autres trucs à faire, il a d'autres affaires, et puis il l'a vécu, et puis il me dit mais si tu changes pas l'affaire, c'est bon. Je lui dis oui, mais quand même, j'ai inventé un personnage, et puis je lui raconte plein de trucs, mais il me
fait
confiance.
Pourquoi avoir changé cette rencontre d'ailleurs, tu disais tout
pour
à l'heure
qu'elle soit plus cinématographique. Ouais. Moi je l'ai retrouvé pour lui parler de ça, lui dire que la famille de Jacques Villiers envisageait de changer d'avocat et ce qu'il pourrait éventuellement rentrer dans cette affaire. J'ai bu un café avec lui, ça a duré 4 heures, je lui ai raconté plein de choses, et puis il est rentré dans l'affaire. Bon, ça faisait une scène un peu chiante. et puis, parce que ça raconte plein de choses.
Le fait qu'elle lui court après.
Voilà.
Il est un peu magnifié, hein, ce personnage de Éric Dupond-Moretti. Enfin, je trouve qu'il a quelque chose de très. En tout cas, Olivier Gourmet le joue avec une forme de théâtralité, surtout à la fin. Évidemment, quand il fait sa plaidoirie, parce que c'est normal, il y a une forme de théâtralité là-dedans.
Ouais.
Mais même lui-même, il est assez. Je trouve très, très mis en valeur. Il y a quelque chose de très beau, en fait, dans le personnage. Olivier Gourmet lui-même, mais beau dans le film, c'est pas un terme technique, mais il y a quelque chose de. Il a énormément de charisme, énormément de prestance, et c'est un personnage qui est plutôt. C'est un personnage qui est vraiment assez droit, quoi, dans le film, et c'est pas un personnage sur lequel on peut douter pour le coup.
On peut pas douter a priori de sa sincérité. Par contre, il est rugueux, il est ours, il est rentre dedans, il peut être très dur. Il y a aussi tout ça, quoi. Moi, j'ai
un peu désagréable.
Ouais, c'est un peu dur leur rapport. Hein. Ouais. Il l'envoie balader, il l'exploite un peu. Il y a tout ça aussi. Alors tout ça, c'est encore une fois Éric Dupond-Moretti de cinéma face à ce personnage-là. Donc faut vraiment. Mais j'ai essayé. Et je pense que le vrai Éric Dupond-Moretti. M'en aigré, de pas non plus faire un truc trop lissé, quoi, et sans cultiver une insolence, etc. Je voulais quand même que ce soit musclé, et puis le cinéma, c'est du conflit, il fallait qu'il se rentre dedans. Moi, je pensais tout le temps à ça. Je pensais, par exemple, il y a un truc dur, hein, encore une fois, le climax, c'est dans le couloir de l'hôtel, ça, c'est violent, par exemple. Et il a jamais fait ça. Alors d'abord, personne n'a réveillé Dupond-Moretti à 4h du matin.
Et
je pense qu'il faut pas. Alors, le film a l'air de dire qu'il faut pas. J'en sais rien. Peut-être
mais
qu'il serait doux comme un agneau.
On ne lève personne à 4h du matin.
Surtout la veille de sa plaidoirie, quoi, pour lui dire des conneries, voilà. Pour lui dire un truc fou furieux. Donc, mais ça, moi, j'ai construit le film sur cette scène, quoi. Vraiment. C'est-à-dire, je pensais à ça. Dans le casting, je pensais, est-ce que ces deux-là, ils vont se rentrer dedans? Et à chaque fois, les scènes, c'était pour préparer ça. C'était, il fallait qu'on ait envie qu'ils se rentrent dedans. Il y a une espèce de match, encore une fois, entre le doute et la vérité ou la certitude.
La certitude.
Le doute et la certitude. Et c'est aussi ça, le point de vue. Je suis tombé plein de fois dans les... Parce que je fréquente des avocats, donc. Dans les cabinets d'avocats, il y a très souvent cette phrase, cette citation de Nietzsche. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. C'est un truc que j'ai vu très souvent chez les avocats. C'est une espèce de... Voilà, c'est un truc qui fait réfléchir à l'intime conviction. C'est un peu ça, le film. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
Ça a pu faire une bonne tagline.
Ouais,
c'était sur le scénario, à un moment donné, que ça traînait au début, en première page.
On n'a pas parlé de Laurent Lucas, du choix et du traitement, de Viguier, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il est totalement absent, en fait. Il est pas là, en fait. C'est le mot.
Ouais.
Et le choix de Laurent Lucas est ultra judicieux. Je trouve que c'est peut-être même le plus beau choix de casting, en fait, parce qu'il est quelqu'un très ambigu.
Il trimballe une image de quelque chose, de quelqu'un d'ambigu pour les films qu'il a fait auparavant.
Alors ça, c'est pour vous qui savez.
Mais je suis d'accord, il a
une opacité, il a un truc très très singulier, Laurent Lucas, fascinant. Et il a aussi joué des bourreaux et des victimes. Vraiment, il s'est fait sadiser dans des films autant qu'il a fait des serial killers. Enfin, dans notre imaginaire de cinéphile. Bah oui, par exemple. Non, mais plusieurs fois.
Dans Calvaire ou dans Alléluia, il a deux rôles différents.
Voilà, ou dans même Harry, un ami qui vous veut du bien, c'est la victime. Donc il a ces deux trucs-là. C'est exactement ce qu'on voyait de Jacques Viguier. Alors, d'abord, il y a ce truc de l'opacité et de l'absence. Tout est dans L'étranger de Camus. Être absent à soi-même, être absent à son propre procès, c'est quelque chose de très universel qu'on rencontre souvent dans les cours d'assises. J'ai une petite anecdote très parlante. On arrive avec Marina, j'ai emmené tout le monde voir des procès. C'était hyper important que tout le monde aille aux assises et pas pour pas faire le film hors sol en regardant des films et que tout d'un coup quelqu'un ait la mauvaise idée de dire objection, votre honneur. Il fallait que tout le monde aille aux assises. D'ailleurs, c'était un peu interdit de voir trop de films de procès, quoi. Moi, j'avais bien réfléchi à ça, c'était suffisant. Par contre, les assises, il fallait y aller. On va avec Marina, qui avait déjà beaucoup assisté à des procès quand elle était jeune et qui était déjà hyper, hyper intéressée, qui avait un regard brillant déjà sur la justice. On va voir.
C'est un truc que tu as découvert, j'imagine, après.
Ouais. Quand je l'ai rencontrée, je l'ai rencontrée parce qu'elle avait fait savoir qu'elle adorait les films de procès, qu'elle rêvait de faire un film de procès et que ça pouvait l'intéresser. Je la rencontre. Tout de suite, je vois qu'elle a fait tout le chemin avant même de lire. Elle lit, elle me dit je veux faire ce film, etc. On connecte tout de suite, c'est génial. il y a un truc d'évidence de rencontre, comme Gourmet, qui était sur la liste depuis longtemps, mais c'est quand je le rencontre où c'est évident, quoi. Il faut toujours rencontrer les acteurs, ça n'a pas de sens de faire ça en regardant des films, faut les rencontrer. J'ai réussi à perdre mon fil, c'est classique.
Donc vous allez voir un...
On va voir un film, procès, on va voir un procès, voilà,
et pas un film, mais un procès. Lapsus intéressant.
Et on rentre dans la cour d'assises, on sait juste un truc, donc c'est Dupond-Moretti qui défend une femme accusée d'avoir tué son mari, de l'avoir empoisonné. C'est le seul truc qu'on sait. On n'a rien lu et tout, on arrive et on ne voit pas les avocats à leur place habituelle parce qu'ils nous tournent le dos, ils sont au premier rang du public, et donc on voit leur tête qui dépasse et on regarde l'accusé. Qui est cette femme très fermée, avec un visage un peu dur, blonde avec une coupe au carré, très emprisonnée par ses cheveux, avec un maillot de marin, mais qui lui donne un air de bagnard des Dalton, quoi, et qui prend des notes, et qui a l'air dur, quoi, crispée, etc., et qui regarde pas du tout le public, qui prend des notes, tout. Et puis on se fait plein de commentaires avec Marina, on l'observe, on regarde, on se pose plein de questions, et puis au bout de 20 minutes, on la voit qui se lève et qui se barre. Et en fait, c'était la stagiaire greffière, parce que l'accusée, elle comparaissait libre, sur le banc, le même que ses avocats, et voilà. Et c'est juste pour vous dire que quand on vous met dans le box, vous êtes coupable. Et que je vous mets tous, un par un, dans le box, je dis ça tout le temps dans les salles de cinéma, après, dans les débats, vous aurez une tête de coupable. Il y a d'abord ça, en fait, que le film prend en charge. Il se trouve que Jacques Viguier avait particulièrement l'air absent. Moi et d'autres, on pouvait le regarder comme le lapin pris dans les phares qui comprend rien à ce qui lui arrive. Et il y en avait beaucoup et l'accusation pour le revêtir de toutes les tares et se dire que dans son silence, il était forcément suspect et dans ses mystères et ses secrets, se cachait sa culpabilité. Voilà, c'est plus on le regarde, moins on le voit. C'est vraiment ça, le personnage de Jacques Viguier. Moi, le Jacques Viguier que j'ai rencontré, il est bien plus affable et sympathique que celui du film parce que, et je lui ai expliqué, il l'a compris très bien, le Jacques Viguier du film, c'est le Jacques Viguier de son procès. C'est le Jacques Viguier emmuré. Alors, il n'est pas dans son box, il comparaît libre, donc il est à côté de son avocat. Mais c'est voilà, il est dans son cercueil en fait, et on le regarde comme probablement le coupable, puisque si on l'a amené là, c'est que le dossier dit qu'il est coupable, hein. L'enjeu d'un procès en France, c'est la vérité policière, c'est la culpabilité de celui ou celle qui est dans le box, et puis on essaye de mettre en scène cette vérité judiciaire et de l'entériner en vérité de cette vérité policière et de l'entériner en vérité judiciaire. Alors là, c'était que des convictions, il y avait rien, il y avait pas de preuves, il y avait des éléments très très, il y avait essentiellement la rumeur et la justice qui fait feu de tout bois et qui fait venir plein de gens convaincus. Les policiers en premier lieu. On fait défiler les policiers pour dire on a de l'expérience, on le sait, il est coupable. Voilà. Et Jacques Viguier, il y a vraiment ce truc, c'est un grand déballage. On déballe la vie privée, etc. Mais il y a une espèce de réduction de l'accusé par la cour d'assises. C'est pas un homme, c'est un homme réduit, c'est une statue de cire. Voilà. Il y avait tout ça à prendre en charge. Dans le mutisme, alors c'était pas simple, hein. Et Laurent Lucas, tout de suite, premier sur la liste. Alors j'ai fait une liste parce que tout le monde me disait, mais il n'y a rien à jouer, ça va être hyper dur, tu vas pas trouver un comédien, Laurent Lucas, il va pas pouvoir suivre et tout. Et évidemment, il a dit oui tout de suite, ça lui a parlé tout de suite. Voilà, et après, comment on a fait, comment il a fait, pour moi, ça tient de la magie noire, quoi. Je trouve que c'est vraiment.
Et Laurent Lucas, magie noire, je pense.
Mais ça va bien.
Ouais, ça va très bien. Non, mais c'est vraiment, moi, je suis pas comédien, j'essaie de comprendre par où il passe, mais je comprends jamais, pas plus Marina, Olivier, etc. Moi, je les nourris jusqu'à les gaver, et puis je les laisse prendre en charge, et je leur laisse de la place, et après, j'essaie de les faire jouer les uns avec les autres, et de trouver le bon dispositif pour les mettre bien, quoi. Je leur fais à bouffer, et puis après, c'est quand même eux qui mangent, quoi. Où je vais faire les courses, et c'est eux qui cuisinent. Je sais pas quelle est la bonne image.
Mais il y a de la nourriture, en tout cas.
Voilà, il y a de la nourriture, c'est un partage. Laurent Lucas, je lui ai parlé de Jacques Viguier, il ne l'a pas rencontré. Alors, la règle aussi, par rapport à cette distance de sécurité, c'est que je ne demandais rien aux gens de la famille de collaborer, etc. Ils restaient à distance. Je leur ai quand même fait lire une version du scénario quand c'était...
C'est quoi leur retour à eux?
Bah, ils ont lu une version du scénario pour comprendre ma démarche. Je pense que s'ils étaient opposés, j'aurais pas fait le film. C'est difficile à dire, puisqu'ils s'y ont pas opposé, je l'ai fait, mais c'était quand même essentiel. J'avais pas forcément besoin de leur demander leur autorisation, puisque dans l'absolu, hein, c'est une œuvre de fiction, on peut reprendre les noms. Ils ont perdu malheureusement leur nom parce que c'est un fait divers et allé dans la presse. Voilà, mais j'ai tenu à le faire auprès des enfants, etc. Ils ont compris la démarche, ils ont compris l'enjeu du film, qui était de s'interroger sur la justice. Je leur ai expliqué aussi qu'il y aurait des éléments à charge, parce que c'était pas honnête d'en enlever, que l'idée c'était pas d'aller la fleur au fusil pour réhabiliter leur père, mais d'amener le spectateur à comprendre qu'on acquitte quand il n'y a pas de preuves. C'était ça l'enjeu du film, et ça leur allait très bien. Ils comprenaient ça. Jacques Viguier aussi. Et ensuite, on leur a montré le film, et ils s'opposent pas au film, et voilà, après de... ça raconte leur douleur, ça raconte plein de choses. Le dessin des enfants qu'on voit dans le film, c'est le dessin des enfants. Pour eux, déjà, ça, c'est très précieux. Voilà. Il y a plein de choses qui sont précieuses. Ils ont perdu leur grand-mère, qu'on voit apparaître dans le film. Ils ont perdu leur grand-père, qu'on voit apparaître dans le film. Tout ça, ça a de la valeur pour eux. Mmh. Après, ils comprennent ce que le film veut raconter. Et ils sont contents que le film ramène de la complexité et soit pas... c'est pas un film à thèse, c'est pas un film qui défend une thèse, c'est un film qui cherche à pousser à une réflexion sur la justice. Donc ça, ça leur parle. Voilà. Donc ils ont accepté le film. Les enfants l'ont vu deux fois. Je leur ai remontré là, la semaine dernière. Voilà, en gros, ça les a touchés, quoi, pour faire simple. Et Dupond-Moretti aussi, ça résonne avec 35 ans de Barreau et des valeurs qu'il a portées pendant longtemps.
J'ai encore un peu de temps, Thomas.
Dernière, que c'est la dernière question.
Allez, une question un peu... de méthodologie, en fait, je me demandais en fait comment on tourne le plaidoyer final, en fait, qui est un monologue quand même super long, qui est très découpé en fait dans le film,
Au montage, mais toujours de A à Z, on l'a fait la plaidoyer.
Voilà, c'était ma question. Ouais. Voilà.
Ça dure 15 minutes sur le tournage, finalement 12 minutes in fine, et on sait évidemment qu'on va couper. On sait pas quoi. et surtout, c'est la seule scène où il y a de la machinerie. C'est la seule scène très précise. Le reste, en fait, est en mode documentaire à l'épaule. C'est-à-dire que c'est deux caméras à l'épaule, en permanence, sans changement de lumière. Zéro machinerie.
Mais pourquoi ce choix naturaliste, alors, du coup?
C'est pas naturaliste, l'épaule. C'est pas vrai. Moi, j'aime pas du tout ce mot vis-à-vis de mon film, qui est archi-fabriqué. C'est d'accord. Que des comédiens qui jouent. Pour moi, le naturaliste, c'est demander à des gens d'être ce qu'ils sont dans la vie et de les capter et tout ça. Mmh. Alors après, c'est pas parce qu'il y a pas de machinerie que...
T'as plus une impression de capter le réel que d'avoir un point de vue de cinéaste.
Moi, j'ai des points de vue très clairs de découpage à chaque fois, sauf qu'il y a pas de machinerie, c'est tout. C'est-à-dire que... Mais parce qu'il y en a pour la plaidoirie, mais c'est une décision de mise en scène en soi.
Alors, je parle plus peut-être de la lumière, alors.
Moi, je trouve que... Alors oui, après, si, je veux que ce soit réaliste, mais le réalisme, c'est pas du naturalisme. Mmh. Non, mais c'est... on peut en débattre. D'accord, mais pour moi, le naturalisme, c'est et c'est pas pour ça que c'est moche, mais par exemple, Kechiche, c'est du naturalisme.
Oui, c'est voir des personnages interagir avec leur environnement, mais c'est sûr que là, c'est pas un vrai environnement pour
eux. Et puis, c'est capter un truc que tu peux pas écrire aussi. Mmh. Nous, on a pu l'écrire.
Très écrit,
on... Moi, ce que j'ai fait, c'est hyper écrit, quoi. Et je sais pourquoi la caméra est là. Mmh. Donc, et pareil, le naturalisme en termes de cadre, ce serait effectivement pas savoir ce qu'on filme. Mmh. Par exemple, c'est pas le bon exemple, mais bon, il y a des cinéastes qui se disent je veux pas savoir où va chercher la caméra, etc. Il y a une scène qu'on a fait comme ça, c'est la toute dernière scène où là effectivement je disais pas grand chose aux comédiens, il fallait que tout soit retourné, qu'on change d'univers, que tout d'un coup on ait l'impression que tout le monde ait des sentiments, qu'il y ait de l'émotion, que Jacques Viguier enfermé dans son box, tout d'un coup bah c'est un être humain en larmes avec ses enfants dans les bras et c'est plus le même, voilà. Et là effectivement on a laissé tout et on captait, et là ça ressemblait un peu plus à du naturalisme, mais le reste du film est hyper écrit, précis et tout, sauf que il y a un sentiment un peu à l'épaule, mais qui est pas non plus, on court pas partout, quoi.
Non, c'est pas du pumpkin
grass. Oui, c'est
pas
du pumpkin grass.
Ça aurait été bizarre de sursauter, de sauter sur place avec des gens figés. Mais il y a ce truc, ouais, d'essayer d'être dans.
Non, mais plus, par exemple, il y a pas beaucoup de super longues focales qui écrasent les trucs.
Non, il y en a pas trop.
À distance.
Ouais.
On est un peu plus proche des.
Il y a une séquence qui est vraiment dans un pur point de vue de Nora où on n'a pas de focale courte du tout et on est avec elle sur le banc, qui est la première séquence des assises, qui est à mon avis la plus chiante à la mise en scène, voilà, et qui est, alors peut-être on aurait pu pousser les longues focales, etc. Mais après c'est aussi les moyens du film, le décor, ce qu'on peut faire techniquement, ce qu'on peut pas faire techniquement, comment tu fais rentrer ton économie dans c'est plus comment tu fais rentrer ton langage dans l'économie que tu peux avoir, et il faut aussi s'adapter.
Mais pourquoi de la machinerie du coup sur le plaidoyer,
je reviens pour en gros il y a quand même des trucs d'axe verrouiller, une règle assez simple, c'est d'abord on passe jamais du côté des jurés, voilà, jamais on passe la ligne des jurés, on va pas derrière eux, avant la plaidoirie. Voilà. Y a un truc de trois quarts, c'est-à-dire que le plan vraiment frontal sur celui qui est à la barre, c'est soit un gros plan, et notamment quand l'amant est à la barre, il est de tous les plans, l'amant à la barre, c'est-à-dire qu'il est en amorce sur tous les plans, parce que à un moment donné, il a emporté la partie quand il est venu à la barre, il a réussi à dominer, vraiment, c'était très clair, Dupond-Moretti, il a réussi à le désarçonner, et puis il est sorti, il est rentré comme un menteur, il est sorti comme un mec un peu maladroit, voilà, donc c'est son moment, quoi, on l'a attendu pendant tout le film, voilà. Donc il y a ça, je le voulais dans tous les plans, mais il n'y a pas de plan objectif, entre guillemets. Il y en a un, c'est Clémence, qui est un personnage objectif parce qu'elle est équidistant de la victime présumée, dont on ne sait toujours pas si elle est victime et si elle est morte, et de l'accusé. Mmh. Et ça, je voulais un plan très archétypal, symétrique, la foule derrière et tout. C'est le seul moment où il y a ça et où on est vraiment dans cet axe-là. Sinon, c'est des gros plans, et surtout, c'est de trois quarts. C'est-à-dire, c'est depuis les avocats qui abordent les témoins. Donc, quand la défense se lève ou la partie civile se lève, on est axé comme ça. Donc, on attrape un peu de public dans les coins. Voilà. Et puis, il y a tout le temps des plans depuis le point de vue de Nora. Voilà. Et la plaidoirie, l'idée, c'était de faire tout ce qu'on n'avait pas fait, c'est-à-dire la caméra. En fait, il prend tellement possession de l'espace, c'est une idée toute simple, hein. C'est qu'on va voir le décor comme on ne l'a pas vu, et le lieu, il prend possession de tout, et tout le monde l'écoute, et on passe du côté des jurés à un moment très précis de la plaidoirie. Et là, c'était très précis, très découpé. Comme il s'adresse à plein de gens dans le public, tant de plans sur Marina. Là, c'est très storyboardé. En tout cas, sur tous les plans de réaction des gens dans la foule, les jurés, etc. Et puis, je voulais qu'il se lève et il prend possession de l'espace. Donc, c'était de la dolly pour la première fois. Toujours toute la plaidoirie. Alors Gourmet, c'est une machine de guerre. Donc en fait, il l'a fait 17 fois, je crois. Je me souviens qu'on a fait 4 heures de rush, je crois. Il y avait quand même 2 caméras. Alors moi, la règle, c'était...
Il y avait quand même 2 caméras, même sur cette scène-là.
Sur les assises, c'est tourné en 11 jours, le tribunal. Et on a 2 caméras systématiquement.
Tout le temps. Je peux le comprendre sur le reste. Mais sur cette scène-là, plus particulièrement...
Pour les plans de réaction aussi, pour gagner du temps. Parce que c'est pas très compliqué, une fois qu'on a vu notre axe là, de se dire que tiens, on peut en profiter pour faire un plan sur les enfants, la grand-mère, mais aussi sur le juré. Voilà, on a besoin de tout ça. Voilà. Et on se donne toujours beaucoup plus de matière que ce qu'on a scripté. Et après, en fait, c'était la technique qui s'adaptait sans arrêt. Et puis on corriger un peu des choses d'Olivier, mais il fallait quand même lui laisser l'espace, etc. C'était lui qui nous emmenait, c'est lui qui se déplaçait dans le cadre et nous qui le suivions. Et il y avait des trucs techniques hyper compliqués où il se rapproche, où il y a des problèmes de points et tout. Et il fallait pas le faire chier. Je voulais pas de marque au sol, par exemple. Ça, c'était la règle. Donc ça peut être du naturalisme. Mais il y avait pas de marque au sol. En fait, j'ai rien fait de techniquement compliqué, sauf la plaidoirie. Voilà. En gros, c'était le seul moyen de faire rentrer dans l'économie.
Mais même là, il y avait pas de marque au sol.
Il y avait pas de marque au sol, mais comme Olivier Gourmet est un génie et qui comprend tout, à un moment donné, moi, j'allais à l'oreille du pointeur qui faisait le point. Demander ça va, qu'est-ce qu'on peut faire, ouais mais je veux pas l'ennuyer, etc. Et puis on fait une fois, deux fois, trois fois, puis je veux absolument ce truc là où il part de loin, il se rapproche, on finit en gros plan, on commence à tourner autour de lui, enfin voilà des choses très théorisées en amont. Et puis à un moment donné, la prise est magique, je vais le voir, je vais être trop fort, il dit ah, mais c'est pas moi, c'est Olivier. Et en fait il s'est calé, c'est lui qui s'est adapté à eux sans qu'on lui demande rien. Et il a fait 17 prises. Je me souviens que le lendemain matin, je suis ennuyé parce que j'ai regardé les rushs, j'ai fait enregistrer les rushs du combo pour regarder tout, pour m'assurer qu'on a ce qu'il faut, etc. Et le lendemain, je reviens et je lui dis, je suis désolé, mais le moment où tu cries j'ai honte, faut absolument que j'ai un plan d'ensemble, que tu dis ça à toute la machine judiciaire et que ça résonne, et voilà. Et je l'ai pas, donc j'ai juste besoin de j'ai honte en plan large. Et tu me dis de combien d'élan tu as besoin, d'où tu pars, où tu vas et tout, pour être chargé, pour être... Et il me dit, bah, moi je fais tout. Donc il a refait pour... voilà, il était vraiment comme ça, quoi. Il pouvait pas ne pas...
18e fois.
Voilà, donc il a vraiment... Ou c'était la
17e. C'était peut-être
la 17e. Il a vraiment... donné à mort, et c'est pour ça qu'on sent la sueur sous la robe, c'est pour ça qu'il y a une puissance, parce qu'il y a de l'électricité partout. Et quand on fait des plans de réaction, on les fait pas vite fait, vas-y regarde à gauche, il y a le moins de contraintes techniques possible, en fait, hein, c'est aussi simple que ça. Et dans le même genre, quand on fait des trucs très montés, montage parallèle, là, du style elle est dans les cuisines, elle claque, elle sort une feuille, elle lui donne, et puis là lui il la dégaine, il y a une réplique à la barre et on voit un autre témoin qui arrive et tout, pour avoir l'électricité et la tension, on faisait rentrer les acteurs qui venaient à la barre. Ils n'avaient pas le droit de voir le set. Ils n'avaient rien vu. Donc, ils rentraient, là, ça tournait. Ils venaient se mettre à la barre. Nom, prénom, âge, profession, juré de dire la vérité. Premier tour de table, le président qui les interroge. Tout ça improvisé, complet. Le mec, souvent, je lui disais rien. Je lui disais, t'inquiète, ça va bien se passer. Il avait une ou deux répliques, il la connaissait. Et puis, il était tout tremblant. Les autres l'appelaient. Parfois, on se marrait un peu parce que c'était à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Je savais que tout ça, c'était des déchets, puisque je pouvais rien mettre qui n'était pas scripté vraiment dans le réel. Oui. Et puis, tout d'un coup, notre Éric Dupond-Moretti de cinéma, Olivier Gourmet, s'amusait avec tout ça. En amont de tout ça, on avait fait des ateliers où ils avaient déjà interrogé des témoins. Oui. Pas dans leur texte, mais vraiment, on leur avait appris ce que c'était qu'avocat de la défense, etc. Et donc, tout d'un coup, le texte sortait, et là, ça tremblait. Voilà. Et ça, c'était un peu un sentiment de naturalisme, alors pour revenir, mais en même temps, très pensé dans un dispositif, et très ludique, et avec des acteurs dans le jeu. C'est-à-dire, c'était un espèce d'échauffement dans le jeu, etc. Mais en fait, pour moi, le naturalisme, c'est chercher l'accident. Et en fait, c'est un film, quand même, qui est dans la maîtrise, et où on ne peut pas sortir du truc. Avec, évidemment, le cinéma, c'est aussi vivant, mais... Voilà. Après, je me suis pas lancé dans mon plan, c'est de là à là, c'est ça, etc. À part chez elle, dans l'obsession, il y avait des trucs un peu précis. Mais d'abord, je me suis lancé dans rien de compliqué parce qu'on avait beaucoup de choses à faire et que voilà, fallait qu'on sente une énergie. Il y avait du montage, oui, ça c'est sûr, c'était très précis sur le montage.
Moins de 40 jours de tournage, c'est ce que tu me disais tout à l'heure.
34, ouais, voilà. 34, c'est très luxueux. Oui, si tu fais un énorme film de sous-marin, je pense que t'as plus que ça. Mais pour un premier film, 7 semaines, ça doit être le max, je pense. C'est déjà le max, hein, ce qu'on a eu. Après, il y a beaucoup d'acteurs et tout. Si on avait fait un truc... Et puis, moi, j'avais peur aussi. Il fallait que ce soit contemporain et donc, encore une fois, physique et qu'on soit impliqué, etc., dans les scènes d'audience. Et ça peut très vite, si tu fais un travelling très doux, etc., ça peut très vite être au théâtre ce soir, quoi. Il y a une théâtralité qui, à mon avis, va mal. Alors, sauf au moment de la plaidoirie, parce que là, c'est un grand morceau. Et il est tout seul aussi. Mais le truc... je peux pas essayer de faire Zemeckis avec 34 jours de tournage et c'est pas possible en fait, on va se planter. De toute façon, je pense qu'il faut pas essayer de faire Zemeckis en France. mais je me suis pas lancé.
Et pourquoi pas ?
Non mais j'invite qui veut le faire, mais il faut beaucoup de temps et de patience qu'on n'a pas sur un premier film en tout cas. Ce que je veux dire par là, c'est voilà, des plans hyper, hyper précis. Je m'adaptais quand même à la plaidoirie, j'avais des envies, mais quand on pouvait pas, on s'adaptait et puis ça marchait quand même. Mais on savait, moi je cochais mes petites croix, ça, de ce morceau-là je le laissais sûr, ça va être là. Voilà. Et puis on le laissait jouer, et puis parfois c'était aussi magique. Et...
Une belle cohérence. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Antoine Rimbaud d'être venu nous voir. Une intime conviction, c'est à découvrir au cinéma. Et évidemment, notre temps est écoulé. Merci également à Perrine et Julien, mes camarades, à Quentin, à la technique, à Juliette, à la préparation. Rendez-vous sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio, pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.